Denis Gravel, mes hommages.
Hello.
Passez une belle matinée.
Oui, quand même.
Manque-tu un peu de soleil aujourd'hui?
Absolument.
Oui. Mais t'as l'air en forme. Je sais pas, ces temps-ci, c'est-tu le fait que t'es sorti de ta grippe ou...
Ben, hier, j'étais en feu. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir pris, je sais pas, moi, 15, 20, 200 pas de recul par rapport à hier. C'est pas pire parce qu'on a gagné les degrés. T'sais, tu le sais, quand on fait des pas par en avant, là, oui. la température est déprimante aujourd'hui, mais on est confortable dehors.
Exact. Comme on hier. Hier, on a pogné quoi, 17, 18 à peu près, tout dépendant des endroits où vous étiez.
Monté à 19.
Actuellement, on a 16 à l'aéroport Jean-Lesage, donc 16 degrés. Quoi, en ville, doit faire un genre de 17, 18 à peu près. C'est tout un petit peu plus chaud au centre-ville de Québec. Mais oui, on s'en va vers le bon côté de la température qu'on aime bien.
On est dû.
Hey, plein de choses à jaser, mais ce qui me fait halluciner, c'est un article de Nicolas Lachance dans les journaux de Québécois de ce matin qui parle du gouvernement du Québec qui a fait confiance à un fraudeur qui est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis pour développer son projet d'identité numérique. Et lorsqu'il a finalement été congédié, l'informaticien Yann Ouellet est parti avec les secrets de la recette, comme on dit, ce qui a miné le déploiement de l'application devant permettre aux Québécois de faire toutes leurs transactions avec l'État sur leur téléphone. Et il était sous la gouverne de qui? Éric Kerr. Et n'importe quel technicien informatique, n'importe quel dirigeant d'entreprise qui se respecte, n'importe quel programmeur-analyste va te dire, Denis, la dernière affaire qu'il faut que tu aies dans ton entreprise, c'est qu'une seule personne avec le trousseau de clés. Parce que si cette personne-là se fait frapper dans la rue, ou si cette personne-là décide de crisser ton entreprise-là parce que mécontent du salaire, ben, tu peux être sûr que c'est toi qui vas être dans le trou pour des années et des années. Ben, sachez qu'Éric Kerr, même s'il y avait des rumeurs sur cet individu-là comme quoi c'était un croche, ben, Éric Kerr l'avait sous sa gouverne et faisait comme si rien n'était.
C'est donc bien facile d'avoir de l'argent de ce gouvernement-là quand t'es un crosseur, quand t'es un fraudeur, quand t'es une entreprise non solvable, quand tu dis que tu vas faire des autobus mais que tu sais pas comment. Coudonc, y a-tu juste les hôpitaux en ruine qui ont de la misère à avoir de l'argent de ce gouvernement-là au total tout?
Qui est juste stupide de pas s'être lancé dans des affaires un peu sombres?
Le mandat de Yann Ouellet, c'était d'accompagner le gouvernement pour mettre en place la transformation numérique du Québec grâce à des logiciels libres. Et rapidement, ce qu'on nous raconte dans le Journal de Québec, c'est qu'il est devenu l'architecte du projet en entier et a agi directement sous la gouverne de l'ex-ministre du numérique, Éric Kerr. Pourtant, en 2017,
c'est ça qui est le plus important.
Son nom, il était sur le radar des autorités des marchés financiers. Il y a plusieurs de ses collègues qui ont mentionné au patron que ce gars-là était à vérifier parce qu'il y avait des problématiques avec l'autorité des marchés financiers. Et il était lié au fameux, la fameuse monnaie là, PlexCoin. Tu te souviens de ça?
Ben oui.
Il y a un gars qui avait floué à peu près 15 000 investisseurs, là, tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Et le tribunal administratif des marchés financiers a même émis une ordonnance en 2018 pour bloquer les actifs personnels de Yann Ouellet, malgré le fait que le gars travaillait encore pour le gouvernement. Et Éric Kerr semblait être au courant de tout ça. Là.
Les drapeaux rouges, on les voit puis on les collectionne dans ce gouvernement-là. Je suis en train de me demander... Si on fouille dans le cellulaire d'Éric Kerr, on va trouver combien d'argent qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire en attendant des nouvelles du prince. Là.
Ce fameux prince saoudien qui a besoin de 10 000 $ pour faire débloquer ses milliards.
Ouais, Éric Kerr a envoyé de l'argent à un prince saoudien. Attends sa nouvelle blonde de Russie à qui il a envoyé de l'argent pour son billet d'avion.
Les gars, il y a des gens qui vont vous croire.
Il parle à Brad Pitt à tous les jours.
Il est à l'hôpital, pauvre petit.
Rendu là, ça n'a pas de maudit bon sens, mais si seulement on pouvait juste mettre ce chapeau-là à Éric Kerr, mais regarde comment le gouvernement est prêt à donner à n'importe quel vendeur de vin, à n'importe quel fabricant de moulins à vin. Il y a juste pour les priorités qu'on n'a pas d'argent dans ce gouvernement-là. On en a pour des nouvelles compagnies d'autobus qui sont gérées par des gens qui ne connaissent pas les autobus. On en a pour la pensée magique. Voici une nouvelle technologie, ça va être l'avenir. Pas tout de suite, mais bientôt. Là, ça nous prend beaucoup d'argent. Ça nous pète d'en face. Toujours la même histoire. Y a-tu juste le monde fiable, respectueux et honnête qui n'ont pas accès à l'argent du gouvernement? On a un hôpital qui est en ruine. On vient de le débloquer de l'argent d'urgence pour qu'il rénove le parking. L'hôpital est pas mieux, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça passe.
De la gestion de stress. Tu sais, quand tu dis je suis dans la merde, je me ferai pas réélire, les coffres sont en train de saigner.
Ouais.
On dirait une gestion de stress de faire confiance à du monde qui sont les meilleurs à arriver à ce moment-là dans la vie de quiconque, et donc du gouvernement, pour faire croire qu'ils ont la solution. Et donc, tu signes, tu te dépêches parce que tu penses que tu vas t'en sortir.
On nous dit à nous autres de faire attention à ça parce que tout le monde est prêt à nous frauder, tu sais. Puis le gouvernement se laisse embarquer par n'importe qui, n'importe comment, même quand il y a des avertissements. Si je t'avertis deux jours avant, « Hey, Marceau, il y a des gens qui passent, qui font du porte-à-porte puis qui te proposent de refaire ton terrassement. Là. C'est des crosseurs. Ils ont déjà fait deux quartiers puis ils sont partis avec l'argent. Vas-tu lui donner du cash pas quand ils vont cogner à ta porte? » Ben, le gouvernement, c'est ça qu'ils font. « Ah, il a dû retenir la leçon. Hein? On va y confier nos avoirs, puis on va y confier nos secrets, puis on va y faire monter le réseau informatique. »
Sachant que le gars était louche, puis tu sais, moi, je te l'ai déjà dit, Denis, j'ai un problème d'empathie. Là. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lâche ce gars-là, parce que s'il arrive quelque chose, mettons qu'il a pris une mauvaise décision, puis malheureusement, c'est terminé, je vais me sentir coupable.
Mm-hmm.
Tu comprends? Fait que je me suis dit, il faut que je le lâche. Il faut que j'arrête de parler de lui. Mais des fois, j'ai pas le choix. Éric Kerr est un gars qui a maintes fois fait preuve qu'il manquait de jugement. On a tous déjà manqué de jugement dans notre vie, soit dit en passant.
Oui, on pourrait écrire des livres.
Mais quand ton jugement fait en sorte que tu peux être ministre, exemple, ben, tu es reconnu comme étant quelqu'un qui a bien du jugement, quelqu'un qui est capable de faire progresser des choses. Mais Éric Kerr, depuis le début où il s'est lancé en politique, et ça remonte à l'ADQ, était un gars qui avait des problématiques avec son jugement, à commencer par mentir sur son CV.
Ouais.
Il s'est fait prendre.
Mm-hmm.
C'était connu de tout le monde à l'Assemblée nationale, c'était connu de tous les journalistes, c'était connu de tous ses collègues. Il s'est fait prendre à mentir sur son CV. Malgré ça, il a réussi à se faire élire pareil dans sa circonscription. Tu sais, je veux pas achaler les gens de leur circonscription, mais je leur dirais, écoutez, à la radio, sacrifice, à un moment donné, vous allez savoir ce que vos ministres ou ce que vos députés font dans votre région. Et après ça, il est arrivé plein de choses qui te disent, « Hey, ce gars-là, tu y touches pas même avec un bâton de marde.
Ouais.
Tu y touches pas. » Il a emprunté de l'argent alors qu'il était député. Il a emprunté de l'argent à un échevin qui était dans sa circonscription, Émile Loranger. Éric Kerr voulait s'acheter une maison avec sa conjointe. Mm-hmm. Il a emprunté de l'argent à un échevin alors qu'il est député. C'est le manque de jugement le plus flagrant des dernières années de la part d'un député de la région de Québec. Et malgré ça, il a continué à avoir des grandes responsabilités. Et là, il y avait un fraudeur sous sa gouverne, Yann Ouellette, et il le savait parce qu'il se l'était fait dire. Mais il était tellement emballé par le travail de Yann Ouellette que le ministre a accordé une multitude d'entrevues, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit à TVA, que ce soit dans les stations de radio, en décembre 2019, et dans laquelle il promettait une application sécurisée pour que ses citoyens puissent payer des permis ou encore prendre rendez-vous au plus tard, au début de l'année 2021. Il était tellement emballé, puis finalement, ben, arriva ce qui arriva, le gars se fait poigner, les Américains le rapatrient aux États-Unis et il part avec la fameuse recette qui nous appartient, la recette du gouvernement, ce qui fout le gouvernement dans l'embarras encore à ce jour.
Mais il y a comme des choses qui se ressemblent entre le comportement d'Éric Kerr vis-à-vis quelqu'un qui est rempli de red flags et le comportement du gouvernement vis-à-vis Éric Kerr qui avait déjà quelques drapeaux rouges lui aussi. Moi, quelqu'un qui n'a pas de jugement, je pense pas que ça se donne à la seringue du jugement. Ça serait le fun, on pourrait faire la file, se mettre ça dans les veines, puis là, on n'en ferait plus d'erreur de jugement, mais ça marche pas de même. La personne au-dessus qui sait que le candidat, le député, l'éventuel ministre fait des graves erreurs de jugement, puis qui décide quand même de lui donner des responsabilités, là, j'ai des problèmes. Il y a deux façons de constituer une équipe. Hein. Ça peut être une équipe sportive, ça peut être un band, ça peut être une équipe pour travailler, ça peut être une entreprise que tu pars. Tu t'entoures de gens plus forts que toi pour être meilleur puis qui te tirent vers le haut puis que toi, t'apprennes plein de choses d'eux autres. Ou tu t'entoures de gens faibles qui sont moins bons que toi parce que toi, tu vas mieux paraître au sommet de la patente.
Mais tu vas perdre au bout du compte.
Je sais quel genre d'organisation est la CAQ entre les deux, puis je trouve que tu viens d'en donner un exemple qui fesse fort.
Éric Kerr avait promis plusieurs fonctionnalités que seul Yann Ouellette pouvait faire et concevoir. Et après analyse, une fois que le gars y était arrêté puis envoyé aux États-Unis parce que les Américains voulaient le mettre en prison, après analyse, ils se sont rendus compte qu'il y avait juste Yann Ouellette qui étaient capables d'entrer dans les dossiers puis de faire sortir les programmes sur lesquels ils travaillaient. Les autres n'avaient pas la clé de la recette.
Mm-hmm.
Ils ne savaient pas.
C'est terrible, ça.
C'est notre gouvernement, là.
C'est donné énormément de pouvoir. Puis, on serait surpris, hein, si on fait le tour, même au privé, là, du nombre d'entreprises qui confient énormément d'autorité et de responsabilité à un gars d'informatique qui est le seul à comprendre comment tout marche. Mais le gouvernement avait eu des avertissements. Là, tu donnes les clés de la bâtisse.
Ouais.
À quelqu'un qui a déjà des antécédents.
Mais je comprends pas qu'on les vérifie pas. Mais ça fait un peu la lumière sur tout ce qu'ils nous disent des Patrick Mathieu de ce monde, cofondateur du Hackfest, spécialiste en cybersécurité, des Steve Waterhouse que tu vas voir ce soir aussi dans Marceau Soir pour en parler de cette situation-là. Ils disent tout le temps que ce département-là de la sécurité informatique est d'un laxisme fou, qu'on s'en fout justement de qui on engage. On veut juste que ce soit fait, puis on n'a pas pris au sérieux il y a 10, 15, 20 ans, avec l'ampleur d'Internet, des réseaux et autres, ce que ça allait faire sur nos gouvernements. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as des géants, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis qui se sont développés et qui sont dans nos systèmes depuis des années maintenant. Puis je pense que tous les déboires de ça, si on pense qu'un Éric Kerr, l'engrenage de la SAAQ, c'est gros, ce qui s'en vient dans l'avenir va être énorme. Puis la chose que je comprends pas, pour avoir parlé hors d'onde avec des gens au gouvernement qui me parlent d'Éric Kerr, il y en a qui disent que c'est vraiment un bon ministre.
Un bon gars!
Ministre.
Un bon ministre!
Mais il manque de jugement. Là.
Mais je comprends pas, parce qu'il y a-tu de quoi qu'on sait pas?
Ben, il manque de jugement. Mais il
peut lui, c'est-tu
ben
le gars qui doit ramasser les balles de tout le monde, puis au final, on le met sur sa tête, mais qu'ils se sont dit c'est tellement radu que le bain est chaud qu'on continue d'en mettre dans son bain, parce que c'est lui la tête de Turc. Mais ça, ce serait un problème.
Parce que
s'il y en a d'autres, faut les épingler aussi.
Il y en a d'autres.
Je te donne un cas typique qui est arrivé dans ma vie depuis que je travaille dans les entreprises. À un moment donné, je voyais qu'il y avait un système informatique qui était branché sur un serveur, mais il n'y avait pas de redondance avec un autre serveur. Ça veut dire que si ce serveur-là pétait, ben, toutes les informations qui étaient dans ce dit serveur-là se perdaient.
Bye bye.
Il
n'y
avait pas de backup.
Puis là, ben, quand ils m'ont regardé, ils ont dit « Ouais, mais on n'a pas besoin de deux serveurs. » Ben, tu comprends pas, tu vas perdre toute ton information. Fait que là, il y a un technicien qui est arrivé puis il a dit « Ouais, ça a du bon sens. Faudrait avoir un disque dur miroir qui recopie tout à chaque, mettons, à chaque 2-3 heures, qui recopie toute l'information. Fait que si ça pète, ben, on va avoir une autre preuve. »
Tu recommences pas à zéro.
Ça, Denis, c'est dans une binerie. Okay? Et après ça, on avait fait un disque dur miroir aussi à ce moment-là puis ça avait bien fonctionné. Après ça, j'arrive dans une entreprise puis pour des raisons incontrôlables, il y a un des deux techniciens qui a dû quitter l'entreprise. Et là, je dis, attends un peu, si on perd l'autre technicien, le technicien décide de prendre sa retraite, là, qu'est-ce qui se passe?
Qu'on fait avec ça, là?
Puis le propriétaire, pas le propriétaire, mais un des employés qui était des boss, m'a dit, d'après moi, que le mot de passe pénis 1, 2, 3, on est capable de faire un bout.
Un petit bout.
Mais ça...
Mais ça aussi, c'est calme.
Ça avait comme... Ça avait comme... Mais tu sais de qui je parle. Fait que ça avait comme un flag en disant, ouais, finalement, faudrait peut-être avoir deux gars avec la recette.
Au moins.
Si jamais il arrive quelque chose...
Je sais pas.
Tu sais, on n'est pas dans le trouble.
Ouais.
Mais nous autres, on est capable de penser à ça. Pourquoi au gouvernement, ils n'ont pas pensé à ça? Ben, c'est parce qu'il y a eu un manque de jugement. Puis Éric Kerr devrait se faire encore plus taper ses doigts.
Mais
le problème, c'est
qu'il
ne peut plus se faire plus taper ses doigts.
Il
parce que s'il quitte, ça va occasionner une partielle.
Mm-hmm.
Puis ça va être le Parti conservateur du Québec
qui
va passer
dans ce
secteur-là.
Qui va ramasser les grenailles de ça? Moi, je te dis, il y a de quoi que je comprends pas sur le « me faire dire ça ». Dans, mettons, l'arrière-scène et pas à la défense d'Éric Kerr. Vraiment, des gens intelligents qui sont dans les corridors, qui trouvent que... Puis de notre côté, comment veux-tu qu'on trouve que c'est intéressant, que c'est intelligent, cet homme-là, je veux dire, en ce moment, pour mener des projets aussi importants. Puis dans le temps, reculons de 8 ans, 9 ans, des gens dans chacun des ministères disaient qu'on travaillait en silo du côté informatique. Fait que c'est au-delà d'avoir un mot de passe pour le backup puis c'est un homme qui le connaît. Ces personnes étaient interreliées dans nos ministères pour avoir une façon d'établir un processus qui est sensiblement le même ou encore qui se ressemble pour qu'on soit capable de communiquer ensemble. C'est un bordel.
Tu m'as fait allumer sur quelque chose, Yann. Le gouvernement est peut-être assez torieux pour mettre de la pression sur Éric Kerr pour qu'il démissionne puis qu'il cause une partielle. Maintenant qu'Éric Duhaime a annoncé ses intentions dans Arthabasca, ils sont assez ras pour faire une affaire de même, là.
Ça se peut.
Ça serait le bout du bout.
Écoute,
là.
J'ai
ça,
un
ça leur semble.
J'ai un gars du ministère de la cybersécurité numérique qui semble avoir déjà travaillé là, qui m'écrit, là, dit, croyez-le ou non, il y a 2-3 ans, les gens au ministère de la cybersécurité numérique avaient des serveurs au MCN et leur redondance était sur le même serveur. Donc, ils avaient pris le même serveur pour faire de la redondance. Fait que si jamais il y avait un dégât d'eau, un incendie, tout ça sur ce serveur-là, c'était fini. Et ça, c'est le ministère de la cybersécurité numérique. Donc, ce que le gars me dit, c'est que Yann, ça a planté, puis la redondance aussi a planté. Il dit « Merci beaucoup, ministère de la cybersécurité numérique. » On est patenté comme Haïti.
C'est incroyable. Incroyable. C'est nous autres.
On est le Haïti du Nord au niveau de l'informatique.
Et du reste.
Et du système de santé.
Et du reste.
Effectivement. Hein, on va essayer de. Combien ça a coûté, Denis? T'as-tu le montant?
Non.
De ce que ça a coûté, là, repartir tout le projet à zéro depuis qu'Yann Ouellet est en prison aux États-Unis et qu'il ne peut plus travailler pour Eric Kerr.
Ça n'a pas dû aider, hein?
22 millions qui avaient déjà été dépensés dans le projet avant d'être la pièce maîtresse de l'informatisation des services de l'État qui
on
a
avait
officiellement
de l'argent
été
pour ça aussi.
Mis sur la glace. On dit que, ça, curieusement, ça n'apparaît même plus au plan québécois des infrastructures, ce montant-là.
Ils l'ont caché! Ça, c'est...
Curieux.
Ah, ça, ça m'écœure, par contre.
C'est très... Qu'est-ce qui t'écœure?
Ils l'ont caché. C'est,
ben
plus,
oui.
C'est plus écrit.
Mais c'est de la politique.
Belle transparence.
C'est de la politique.
Après, là, on peut pas chialer. Je comprends, là, les journaliers, vous avez... Merci à ceux qui enquêtent là-dessus. Merci aux entreprises médiatiques qui mettent de l'argent pour ces enquêtes-là, qui donnent du temps à leurs journalistes pour le faire. Là. Je pense qu'on est vite à chialer, mais là-dessus, il faut quand même leur lancer les fleurs sans peau. Là.
Moi, je me console parce que quand l'hôpital Maisonneuve Rosemont va s'effondrer, il va tomber sur un Moses de beau parking neuf. C'est important, priorité.
C'est juste pour charger encore plus cher le parking à des gens qui ont des douleurs d'aller visiter leurs proches mourants et en difficulté de santé.
Tu t'attends à quoi, Denis, de la première rencontre entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et Donald Trump?
Eh hey boy! J'espère qu'on se fera pas faire un Zelensky, là, qui vont se mettre à deux dessus. Ah ouais, dis-le que t'aimes les États-Unis! Ah ouais, l'écœurant! Avec le tonton, là, Vance, là... Je sais pas. S'attendre à quoi?
Je pense que le Canada est mieux préparé pour faire face à un géant orange de l'autre côté. En 2017 ou 2018, lors de la première rencontre entre Justin Trudeau et Donald Trump, ils ont entraîné Justin Trudeau pour ce qui est de la poignée de main.
Oui, c'est quand même particulier. Là.
Pour être sûr qu'il se fasse pas avoir. Imagine-toi le contexte. Là. Tu travailles chez Leclerc Communication, puis là, ton boss dit ta première tâche aujourd'hui, ça va être d'apprendre à donner la main au gars que tu vas rencontrer. Là.
Le pire, c'est qu'on l'a tout checké, comment Carney puis Donald Trump se sont serrés à main tantôt. Là. On a tout niaisé là-dessus. Coudonc, c'est-tu un souk à la corde? C'est qui qui a le lead de la poignée de main? Alors
y a-t-il une veine qui sort?
C'est, le fond est ridicule. Ouais. La fronde que Donald Trump a faite sur ses réseaux sociaux juste avant la négociation, c'est ça qui me rend un peu cynique et lugubre. T'sais, tu t'en vas essayer de repartir sur de nouvelles bases, puis juste avant rencontre, tu répètes toutes les niaiseries que tu as dit au mois de décembre. On a toutes. On n'a pas besoin d'eux autres, on n'a pas besoin de rien. J'espère qu'on va garder notre belle amitié. Il me semble que ça part drôle pour des négociations.
La seule chose
là.
Qui est différente, mettons, de Zelensky dans ce cas-ci, c'est que c'est vrai que le partenariat économique est important. Il fait semblant que ce n'est pas important pour ses citoyens, mais ce l'est quand même. Il y en a qui périssent économiquement en ce moment, que ce soit dans le voyage, dans le tourisme, mais aussi dans des entreprises importantes. Puis il ne pourra pas donner... Parce qu'on se tient quand même, le Canadien, veut pas, un peu, dans toute cette guerre tarifaire-là. Il ne pourra pas se mettre à dos les citoyens qui verraient une scène théâtrale
mais
comme on a vu avec Zelensky.
Attendons-nous pas à ce que Trump, cet après-midi, dise hey, « je retire les tarifs que j'ai mis ». Ça serait une défaite pour lui.
Et Carney, j'aime son approche réaliste par rapport à ce dossier-là. Il dit « la relation est terminée, là, on ne reviendra pas en arrière avec les États-Unis. Là, il faut négocier sur de nouvelles bases, il faut voir jusqu'où on est capable d'aller ». Mais on ne se serrera pas la main puis qu'on va reculer de 6 mois. Là, ça arrivera juste pas. Le partenariat et la relation privilégiée qu'on avait avec les États-Unis, c'est du passé. C'est triste, mais c'est comme ça.
Oui, parce que Carney mentionne, c'est que ce qu'il veut, c'est du respect.
Oui.
Il veut pas,
ce qui n'est pas évident.
Il veut pas ce qui s'est passé avec Zelensky. Il a dit « Nous méritons le respect. Nous attendons à du respect. Je m'attends à ce que l'on l'obtienne en temps voulu. » Puis il a ménagé ses menaces dans les derniers mois. Là, Donald Trump, on va se le dire. Mais j'avais juste hâte de voir qu'est-ce qui va sortir Donald Trump autre que ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que selon lui, les États-Unis perdent des milliards et des milliards au profit des autres pays qui font affaire avec lui. Puis là, je regarde la retranscription, ça semble pas avoir changé, là.
Combien de temps tu peux continuer de bluffer comme ça pour essayer de renégocier toutes tes ententes? La réponse, je la connais pas. Comment on va réussir, nous autres, à tirer notre épingle du jeu? Y est-tu impressionnant, Mark Carney, à porte-close, quand tu t'en vas négocier avec, quand tu t'en vas parler avec? On le sait, là, à titre de personnalité puis de perception, on est loin de Justin Trudeau, là, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. On envoie un nouveau modèle de premier ministre, là, t'sais.
C'est un gars qui a quand même... Il n'a pas impressionné sur sa prestance en débat. Il n'a pas impressionné dans sa campagne par sa prestance aussi.
Non.
Mais je ne sais pas si devant Donald Trump, effectivement, pour avoir son passé du côté de l'Europe, dans des grandes institutions financières, c'est des gens en finance. Ce n'est pas du monde là, qui ont des émotions quand ils parlent. C'est pas des gens. Ça va peut-être aider versus... Justin Trudeau qui en avait beaucoup d'émotions, qui n'était qu'un frame d'émotions d'abord et avant tout, et ça transparaissait. C'est évident pour Donald Trump que c'est manipulable pour lui. Là.
L'autre jour, je suivais des opinionneux un peu conspirationniste. Puis des fois, j'aime ça, moi, les sujets conspirationnistes. Puis il parlait de la relation Justin Trudeau avec Donald Trump. Puis la mauvaise relation aurait parti d'une photo que Donald Trump aurait vue de Melania et de Justin Trudeau.
Puis il y avait G7 aussi.
Et jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur le Grand Orange que sa femme regarde avec une grande admiration un autre premier ministre que lui en tant que président. Un autre homme.
Le pire, c'est que ça fit le profil. La semaine passée, il voulait être pape. En fin de semaine, il voulait être un Jedi. Je veux dire, il se passe de drôles de choses entre les oreilles de Donald Trump.
Je sais pas si c'est Melania, ces temps-ci.
C'est plus de l'attraction, par exemple.
Tu veux dire?
Ben, il veut juste faire jaser.
Je suis pas sûr.
Non.
Je pensais ça au mois d'octobre, quand il disait « Hey, vous allez devenir notre 51e État. » J'étais d'accord avec toi au mois de novembre. Je ne suis plus. Là. Je pense qu'il se voit pape puis il se voit Jedi. Je pense qu'il est là, là.
Là, on va perdre l'Alberta, là.
Ouais, ben là, s'il voulait donner un coup de pied dans le cul du Canada puis faire en sorte qu'il y ait des nids de guêpes qui partent partout, on peut dire que Donald Trump a réussi son coup.
Daniel Smith a dit, vous savez quoi, pour ce qui est de l'Alberta, moi, je vais permettre aux citoyens de faire un référendum. Moi, j'embarquerai pas là-dedans. Je ne serai pas initiatrice de ça. Mais si les citoyens veulent faire un référendum pour devenir souverain, ben ils le feront. Ça laisse la porte ouverte au 51e État.
Il y a une idée intéressante derrière tout ça, puis ça fait longtemps qu'on en parle ici, l'idée de simplifier les règles pour permettre aux Albertains de faire non pas juste un référendum sur la séparation, mais des référendums en général. Puis l'idée derrière tout ça, c'est justement de passer le plus de dossiers possibles par référendum en Alberta. Une idée qu'on traîne depuis un bout là, de dire « Hey, tant qu'à aller voter, ce serait le fun de voter sur un dossier. » Tu sais, mettons, prenons un exemple, n'importe lequel. Tu votes pour ou contre le tramway, c'est un bulletin de vote. Puis tu votes pour ou contre Sam Ahmad ou Bruno Marchand, t'as deux cases. Tu sais, ça te permet d'éclaircir certaines choses. Et tu pour ou contre un troisième lien, tu le rajoutes en bas. La taxe au chat, t'es pour ou contre, tu rajoutes un carré en dessous.
Ça serait formidable.
Ah, tu dis, toi, ben c'est ça que l'Alberta fait présentement. On veut alléger les règles pour faciliter l'organisation de référendums publics. Et il y a une vingtaine d'années, je faisais cette prédiction-là, que l'Alberta serait probablement la première province à se séparer du reste du Canada. C'est peut-être ce qui va arriver, mais si jamais ça arrive...
Le dollar canadien s'effondre.
Ah, puis il y a un trou, là. Je veux dire, la Colombie-Britannique, elle fait quoi, là? Je veux dire, elle reste dans le U par les territoires d'en haut, là. Il y a plein d'affaires qui marchent plus, là.
Ouais, mais en fait, c'est parce que l'Alberta doit avoir le droit à l'océan, là.
Mm-hmm.
Fait que ça va-tu être par les chemins de fer? L'Alberta doit avoir le droit à l'océan, mais c'est sûr et certain que s'ils font copain-copain avec les États-Unis, j'imagine que ça devrait fonctionner aussi par les États-Unis, mais c'est de la péréquation qu'on n'aura plus, là.
Exactement. Puis je sais pas jusqu'à quel point cette idée-là a de l'attraction en Alberta. J'ai toujours pensé un 30%, mettons, en période d'actualité tranquille. Mais là, au moment où on se parle, je sais pas comment est-ce qu'on file en Alberta par rapport à tout ce qui se passe. Puis c'est quoi qu'on voit d'un bon œil, puis c'est quoi qu'on voit d'un mauvais œil. Les Plaines, ils ont voté pour Poilievre. Au Québec, on a voté pour les libéraux. En Ontario, on a voté pour les conservateurs. Mais au niveau de l'Alberta, c'est probablement là que Poilievre a été le plus fort. Donc, on voulait un gouvernement conservateur, on ne l'a pas eu. C'est tout ça qui fait en sorte que tu passes, mettons, de 30 % à 40 ou 45 % de gens qui veulent se séparer. Puis j'ai peut-être une perception biaisée ou erronée des Albertains, mais j'ai l'impression qu'eux autres, quand ça va être le temps de faire un référendum, ce sera pas 50-50, là. Ça va être 70 d'un bord puis 30 de l'autre.
Ça risque de brasser dans les prochaines années. Denis Gravel, merci.
Hey, thank you, les amis.
Je te souhaite de passer un bel après-midi. On t'écoute à 14h.
Salut.
Après la pause, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, va être avec nous pendant quelques minutes.